VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. À Madagascar, l'épidémie de peste qui s'est déclarée il y a 2 mois continue à se propager et a déjà fait au moins 74 morts, selon le dernier bilan publié mardi par les autorités locales. Le point avec John Lyndon.
D'après le ministère de la Santé, 805 cas ont été recensés dans la Grande Île. Presque chaque année, la peste réapparaît entre septembre et avril. Elle a semé un vent de panique au sein de la population malgré les appels au calme du gouvernement. Par précaution, les autorités ont interdit les manifestations et réunions publiques dans la capitale et ont fermé plusieurs universités et écoles pour des opérations de désinfection. L'OMS a fourni plus d'un million de doses d'antibiotiques et la Croix-Rouge a formé des centaines de volontaires pour la prévention et l'information de la population. La bactérie de la peste se développe chez les rats, mais est véhiculée chez les hommes par les puces. Sa forme bubonique est moins dangereuse. Sa forme pulmonaire, transmissible par la toux, peut être fatale en moins de 72 heures. La plupart des malades recensés à Madagascar ont été infectés par la peste pulmonaire.
La situation sécuritaire en République démocratique du Congo et en Centrafrique va figurer au menu du sommet des chefs d'État des pays des Grands Lacs demain jeudi à Brazzaville, selon la présidence congolaise. Les questions de paix et de sécurité au Burundi et au Soudan du Sud seront également à l'ordre du jour, a indiqué un haut responsable du Congo-Brazzaville. Les 12 États membres de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, Angola, Burundi, RCA, République du Congo, RDC, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan, République du Sud-Soudan, Tanzanie et Zambie. RDC, à quand les élections dans le pays? C'est la question qui alimente les débats politiques présentement à Kinshasa après l'annonce par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qu'il faut presque 2 ans de plus pour terminer les préparatifs en vue de la présidentielle et des législatives nationales et provinciales. La tripartite, gouvernement, CENI et Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui a lieu actuellement dans la capitale congolaise, doit trancher. Plus de détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Réunis depuis le samedi dernier au Palais du Peuple à Kinshasa, le Conseil national de suivi de l'accord, le gouvernement et la CENI discutent de l'organisation prochaine des élections en RDC après que la commission électorale ait annoncé avoir besoin de 504 jours après l'enrôlement pour sa tenue. Il s'agit donc pour la tripartite CENSA gouvernement CENI d'évaluer et de déterminer, conformément à l'accord du 31 décembre 2016, la suite du processus électoral. Présentement, les travaux se déroulent en commission et les conclusions en plénière sont attendues, sauf imprévu, ce mercredi 18 octobre 2017. Pour rappel, la semaine dernière, au cours d'un échange avec les délégués de la société civile, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangave, soulignait la nécessité de disposer de ce délai de 504 jours afin de mener certaines opérations indispensables à la tenue d'élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Annonce qui renvoie donc les élections à la deuxième moitié de l'année 2019 et qui a suscité de nombreuses réactions à l'opposition. Le rassemblement de Félix Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe et d'autres partis politiques d'opposition ont dit non à cette proposition de la centrale électorale, critiquée également par l'ancien Premier ministre Sami Badibanga-Ntita. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Conflit au Soudan du Sud, le gouvernement sud-soudanais montre peu d'enthousiasme pour une nouvelle initiative de paix régionale, décrite par Washington comme une dernière chance pour en finir avec la guerre civile. Le point avec Solange Nyamulisa.
Le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a déploré devant le Conseil de sécurité la réponse tiède du gouvernement sud-soudanais. Il a évoqué un forum de revitalisation de l'accord de 2015, initié par 7 pays sous la direction de l'Éthiopie. Il a indiqué que ce groupe a récemment rencontré le président sud-soudanais Salva Kiir et Riek Machar, le chef rebelle exilé en Afrique du Sud. Ces derniers et d'autres dirigeants de l'opposition ont aussi apporté un soutien prudent à cette initiative. Jean-Pierre Lacroix a également dénoncé la poursuite des entraves à l'aide humanitaire. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, doit se rendre dans les prochains jours à Djouba pour faire pression sur les belligérants. Le Soudan du Sud est plongé depuis décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. Le conflit a éclaté 2 ans et demi après l'indépendance du plus jeune pays du continent en juillet 2011.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Togo, forte tension ce mercredi dans les deux plus grandes villes du pays, Lomé et Sokodé, alors que les manifestations contre le pouvoir prévues par l'opposition aujourd'hui et demain ont été interdites. Le centre de la capitale togolaise est bloqué et à Bay, bastion de l'opposition à Lomé, des manifestants et les forces de sécurité s'affrontent depuis le début de la matinée. Gendarmes et militaires tentent de disperser les barricades dressées par des groupes de jeunes gens à coups de gaz lacrymogène. Et puis au Niger, la culture du poivron interdite depuis 2 ans est de nouveau autorisée dans la région de Difa, dans l'extrême sud-est, où les autorités soupçonnaient la filière de financer les activités du groupe islamiste nigérien Boko Haram. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP Bako Mamadou, le maire de Bosso, une des nombreuses localités dont les habitants vivaient de cette culture qui rapportait à la région des milliards de francs CFA de revenus annuels avant le début des attaques de Boko Haram en 2014. En Afrique, environ 70% de la population est constituée de jeunes de moins de 35 ans, dont 72% qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. La pauvreté est plus accentuée chez les jeunes filles et chez les femmes. En Côte d'Ivoire, par exemple, 75% des Ivoiriennes vivent en dessous du seuil de pauvreté, malgré les dispositions prises par le gouvernement d'Abidjan, notre correspondante Narita Namasté.
Le dernier rapport 2017 sur l'état de la population présente un tableau peu reluisant de la pauvreté chez la femme en Afrique. Un rapport qui prévient que si l'on ne prend aucune mesure pour réduire les inégalités et que l'on ne parvient pas à protéger les droits des femmes les plus pauvres, le monde pourrait faire face à des troubles et la paix pourrait être compromise et les objectifs mondiaux de développement risquent de ne pas être atteints. Mbagué Ngom nous donne la vision des Nations Unies pour la population.
La vision du Fonds des Nations Unies pour la population, c'est vraiment d'arrêter cette spirale descendante actuelle de l'inégalité. Mais il faut faire au moins 3, 4, voire 5 choses. La première, que les sociétés regardent leurs filles et femmes comme des partenaires au développement et leur accordent les opportunités d'une vie avec dignité.
La vie d'une femme en Côte d'Ivoire n'est pas du tout facile. Elles sont souvent privées de scolarité et quand elles parviennent à être scolarisées et se font une place, elles occupent toujours le second rang. Dans le secteur formel, elles occupent un emploi sur 3 et gagnent en moyenne 2/3 du salaire de leurs collègues masculins. Selon Mme Kaba, les disparités entre les gens ont engendré les pertes évaluées à 105 milliards de dollars en Afrique subsaharienne en 2014. Et si la Côte d'Ivoire parvenait à réduire les discriminations à l'encontre des femmes sur le marché du travail et faciliter l'accès à la planification familiale, ce pays pourrait engranger plus de 6 milliards de dollars supplémentaires l'année et verra son économie boostée.
Tous les investissements qui sont faits dans un pays deviennent caduques à peine mise en œuvre. Et donc, il faut limiter quelque part le nombre d'enfants que nous faisons, ou bien il faut planifier les naissances pour que les femmes, elles aient le temps de s'occuper à leurs activités.
Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le combat se tourne vers l'éducation de la santé reproductive. Dans ce pays, la planification familiale est cruciale pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Et pour terminer l'actualité hors d'Afrique, en Espagne, le gouvernement espagnol menace les autorités indépendantistes de la Catalogne de suspendre l'autonomie dont dispose leur région si le président séparatiste catalan, Carles Puigdemont, qui a récemment organisé un référendum d'autodétermination, ne renonce pas à déclarer l'indépendance. Et ce, d'ici à demain jeudi, 8h, temps universel. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.